Et cet après-midi, j'avais à cœur de vous parler d'un sujet qui est celui de la crainte. La crainte est une émotion qui est le résultat souvent de nos pensées ou alors des résultats liés à des situations que nous pouvons traverser. Et Dieu, dans sa parole, nous parle de ce sujet. Et pour cela, j'aimerais que nous lisions un extrait de la parole de Dieu dans la première épître de Jean, au chapitre 4. Premier épître de Jean au chapitre 4, où là il nous est communiqué des pensées très intéressantes et qui demandent peut-être quelques explications. Donc il est dit à partir du verset 17, tel il est, donc il s'agit de Jésus-Christ, hein, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc on va surtout s'attarder sur la première partie de ce texte. Et déjà on va le débroussailler un petit peu et en s'arrêtant sur certains mots. Donc au verset 17, il est dit en parlant de Jésus-Christ, tel il est, c'est-à-dire que c'est un temps présent, c'est maintenant, et nous savons qu'il est vivant puisqu'il est ressuscité, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alors là, il y a déjà une interrogation qui peut survenir dans nos pensées parce que, indéniablement, la condition de Jésus-Christ n'est quand même pas exactement la nôtre. Lui était et est sans péché, nous ne sommes encore pécheurs. Lui est ressuscité, nous ne le sommes pas encore. Nous avons peut-être reçu la vie de résurrection, mais on n'est pas encore au ciel avec lui. Et c'est renforcé dans le fait que, là, il est dit, nous sommes aussi dans ce monde. Donc on voit bien qu'il y a une distinction dans le sens où lui n'est pas dans ce monde. Bien entendu, il a autorité sur ce monde, il peut agir dans ce monde, mais il n'est pas dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'il est au ciel, assis à la droite du Père. Et là, il nous est dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il ne nous est pas dit, tel il est et tel nous serons un jour avec lui dans un monde à venir. Parce que c'est vrai que le christianisme contient beaucoup de versets et de promesses qui peuvent nous donner un espoir pour le futur. Mais là, il ne s'agit pas d'espérance, il s'agit de vécu. C'est le présent dont il s'agit. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc qu'est-ce que veut dire l'apôtre Jean quand il dit que nous sommes comme Jésus? Sans doute il parle d'un sujet particulier ou d'une facette de la personne de Christ. En tous les cas, ça demande réflexion. Là où il y a un défi plus important pour comprendre ce texte, c'est qu'il y a même en plus un objectif à cette vérité. Pourquoi l'apôtre Jean dit cela? Parce qu'il dit, c'est en cela que l'amour est parfait en nous. Donc ça, c'est encore le présent. Alors l'amour parfait, le mot parfait là est plutôt utilisé dans le sens d'accompli, c'est-à-dire il y a une plénitude. C'est un amour qui est accompli en nous, maintenant. Donc, pourquoi l'amour peut être accompli en moi? Parce que tel il est, tel je suis dans ce monde. C'est-à-dire que nous voyons que l'amour parfait que je dois vivre dépend d'une similitude, je dirais, ou d'un parallèle qui doit exister entre Jésus-Christ maintenant et moi dans ma vie aujourd'hui sur la terre. C'est-à-dire que si je ne vis pas ce parallèle avec Christ, l'amour n'est pas parfait. Et en plus, là, il nous est parlé d'espérance ensuite, il y a l'objectif, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Là, le jugement, ça parle de la fin des temps, la période où nous allons rencontrer Christ. Et puis ensuite, au verset 18, l'apôtre Jean s'attarde un petit peu sur l'amour, parce que pour l'instant, il n'a pas parlé de la crainte, il a parlé que de l'amour. Mais comme il vient de parler du jugement, c'est comme s'il y avait une pensée de cause à effet qui vient à son esprit. Il dit, la crainte n'est pas dans l'amour. Et ça, c'est intéressant parce que nous savons, selon Jean, dans l'évangile de Jean, mais même plusieurs fois dans les épîtres aussi, nous savons que Dieu est amour. Et si nous voulons être en relation avec Dieu, on est forcément en relation avec son amour. Sous-entendu, si je vis dans la crainte, je ne suis pas en communion avec Dieu de façon correcte. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ? Parce que la crainte et l'amour ne peuvent pas être ensemble. Et d'ailleurs, dans la vie pratique, ça existe déjà. Si vous avez, par exemple, une relation compliquée avec quelqu'un, je ne sais pas, une personne qui vous veut du mal, une personne qui vous accuse à tort, voilà, il y a une relation conflictuelle, peut-être que cette personne en plus a une autorité sur vous, ça peut être un chef, un patron, un membre de famille influent. En réalité, l'amour ne prévaut pas, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas la personne, mais l'amour n'est pas mis en pratique, l'amour n'est pas, ne se manifeste pas, il n'est pas échangé. En revanche, qu'est-ce qui s'impose à la place, c'est la crainte. C'est-à-dire qu'on a peur que la personne dise encore autre chose contre nous ou qu'elle nous fasse une réflexion méchante. C'est-à-dire qu'il y a une crainte qui s'installe quand une relation n'est pas bonne avec quelqu'un. Donc la crainte et l'amour ne vont pas ensemble. Et on peut prendre un autre exemple, mais lorsque deux personnes commencent à se fréquenter et que l'amour naît entre deux êtres, si, je ne sais pas, moi, il y a un rendez-vous au restaurant qui est prévu, on y va peut-être avec une forme de crainte de faire mal à l'autre, mais on n'y va pas avec la peur au ventre. On y va parce qu'il y a de l'amour qui prévaut. On peut espérer que lorsqu'on va dans une église, on n'y va pas pour être jugé, on n'y va pas pour être critiqué, on y va pour vivre une part d'amour entre nous. Donc la crainte et l'amour ne peuvent pas aller ensemble, c'est pas possible. Et c'est cette relation-là que Dieu veut avec nous. Et donc, la crainte, lorsqu'elle apparaît dans notre vie, elle sert en fait de baromètre pour nous montrer qu'il n'y a pas d'amour. C'est-à-dire que je ne reçois pas l'amour de Dieu, et moi de mon côté, j'aime mal Dieu. Parce que si je vis dans la crainte, ça veut dire que je fais des choses, non pas parce que j'aime Dieu, mais parce que j'ai peur de lui, ce qui n'est pas du tout la même chose. Je peux faire d'ailleurs la même chose. Je peux faire une bonne œuvre, je peux faire quelque chose qui est moralement et je dirais chrétiennement correct, mais si je le fais parce que j'ai peur, je n'aime pas. Et c'est pareil dans le service entre nous, dans l'Église, ou le service qu'on peut apporter aux autres. Si on sert parce qu'on a peur d'être critiqué, si on sert parce qu'on a peur d'être jugé, si on sert parce qu'on a peur de pas être aimé, en fait, on va servir dans la crainte. Et du coup, c'est une manière presque égoïste de servir, puisque on va servir pour atténuer cette crainte que nous vivons. Donc en fait, on va servir pour améliorer notre condition. Et donc, on ne va pas servir pour le bien d'autrui dans un premier temps. Alors que lorsque l'on va, il n'y a plus la crainte, on est libre en réalité. Et cette liberté-là nous permet d'aimer réellement. Et donc, on va aimer Dieu correctement. Et donc, verset 18, je reprends, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait, c'est-à-dire un amour qui est accompli, qui s'exprime dans toute sa plénitude, bannit la crainte, ça la chasse. » Et il continue en disant, « Car la crainte suppose un châtiment. » Et là, on a aussi, alors évidemment, ce passage sous-entend que le lecteur connaît déjà d'autres doctrines, c'est-à-dire que Jean va pas tout expliquer là dans ce texte. Il faut se référer à d'autres passages. Mais dans cette phrase, dans cette affirmation, lorsqu'il dit « car la crainte suppose un châtiment », il est en train de dire à ses lecteurs « mais attendez, le salut, c'est l'assurance qu'il n'y a plus de châtiment. Donc si vous êtes sauvés, il n'y a plus de châtiment ». Donc comme il n'y a plus de châtiment, il n'y a plus de crainte, donc vous pouvez aimer librement. Mais pourquoi la crainte existe ? Parce qu'encore une fois, on a peur qu'on nous fasse du mal. On peut appeler ça, je ne sais pas, la peur du gendarme, par exemple. On a peur. Et des fois, les autorités ne sont pas aimées parce que comme elles ont une autorité, on a peur que l'autorité nous juge et qu'elle nous sanctionne. Du coup, il y a une distance. Mais lorsqu'on est, je dirais, sur un pied d'égalité et que, alors évidemment, Dieu a autorité sur nous, nous sommes bien conscients de ça. Il est Dieu, ce n'est pas une relation, typiquement humaine. Mais néanmoins, Dieu est amour. Et la relation qu'il veut avoir avec ses enfants doit être une relation basée sur l'amour et non pas sur le châtiment. Prenons le cas de parents qui élèvent leurs enfants. Bien entendu, les enfants, lorsqu'ils grandissent, alors qu'ils vont devenir de plus en plus mûrs, dans un premier temps, ils aiment les parents, mais en même temps, ils ont peur du châtiment. Et la maturité, idéalement, c'est d'éduquer les enfants pour qu'à un moment donné, il n'y ait plus cette crainte du châtiment. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à être obéissants, mûrs, raisonnés, ils prennent des bonnes décisions. Et nous, en tant que parents, on souhaite que la relation avec les enfants devienne de plus en plus amour et de moins en moins châtiment. Et on peut espérer que lorsque l'enfant est adulte, de toute façon, on n'a plus la force ni l'autorité pour corriger les enfants ou les punir, mais surtout, c'est que une éducation réussie, c'est quand l'amour prévaut ou continue de prévaloir dans la relation entre parent et enfant, et justement, il n'y a plus ce châtiment. Et lui, du côté de l'enfant, je ne sais pas, lorsqu'il va avoir 20, 25 ans et qu'il va visiter ses parents, il va pas aller voir ses parents en disant « pourvu qu'ils me donnent pas une fessée ou qu'ils me privent pas de dessert ». Ils vont y aller, on peut espérer, par amour. Et parce qu'il y aura cette liberté et non pas la crainte du châtiment, c'est l'amour vrai qui va se communiquer. Et donc, alors que quand les enfants sont en bas âge, c'est en dents de scie. Parfois, les enfants vont craindre le châtiment et parfois, ils vont nous aimer sans condition. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont du mal à raisonner entièrement, ils s'appuient plus sur leurs émotions. Et donc, voilà, ils ne sont pas mûrs. Mais dans notre relation avec Dieu, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y avait peut-être la crainte de la mort, la crainte du jugement dernier, la peur de l'enfer, la peur du lendemain, la peur existentielle, enfin, le sentiment de culpabilité. Il y a plein de raisons qui peuvent nous pousser à rencontrer Dieu. Et puis ensuite, on découvre la croix. On découvre que Christ a pris sur lui nos péchés. Le châtiment qui est tombé sur lui, nous dit Ésaïe, nous donne la paix. Et donc, pourquoi ça nous donne la paix? Parce que châtiment a eu lieu. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait un châtiment, bien entendu, à cause de nos péchés. Et donc, le soulagement et la paix qui nous est donné, c'est de savoir que maintenant, le châtiment a eu lieu. Et comme on ne peut pas condamner deux fois une personne pour la même faute, parce que Dieu est encore plus juste que les hommes, le châtiment a eu lieu, Dieu n'a plus besoin de châtier ou de condamner une deuxième fois. La condamnation est tombée sur Christ. C'est la raison d'être de la venue de Christ sur la terre. Et donc aujourd'hui, nous avons la paix avec Dieu. Et cette paix doit nous amener à recevoir de plus en plus l'amour de Dieu. Et nous, d'aimer de plus en plus Dieu, non pas parce qu'on a une crainte de châtiment, parce que on réalise que tout a été accompli à la croix, c'est ce qu'on appelle l'œuvre accomplie, Jean 19, 30. Et donc maintenant, parce que ce châtiment ne tombera plus sur nous, on va être parfait dans l'amour. Parce que sinon, Jean nous dit, celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. C'est-à-dire qu'on peut avoir un sens de l'amour de Dieu, bien entendu, on a rencontré l'amour de Dieu, on est sauvé, on est régénéré. Néanmoins, on n'est pas à l'aise parce que, voilà, on a encore cette crainte de Dieu qui n'est pas la bonne crainte en réalité. J'en parlerai tout à l'heure de la bonne crainte. Et ça, c'est quelque chose que nous devons bien comprendre. Et c'est pour ça que, en introduction, l'introduction à ce texte que j'ai lu tout à l'heure, l'apôtre Jean dit: tel il est, c'est-à-dire que ça commence avec lui, ça commence avec Jésus-Christ. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est-à-dire que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il a présenté l'œuvre au Père, il a présenté le sang. Aujourd'hui, il est notre avocat, il est le prêtre, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et donc, par lui, nous avons la paix avec Dieu. Nous-mêmes, nous n'aurions pas pu avoir la paix avec Dieu directement. Nous avons la paix avec Dieu par la deuxième personne de la Trinité, par Jésus-Christ, par son office, par son œuvre. Et donc, nous devons par la foi croire les promesses de Dieu, croire le moyen que Dieu nous a donné pour avoir la paix. Et du coup, tel il est, pourquoi? Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui, Jésus-Christ? Il est dans le repos. C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux nous dit « Ne tardez pas d'entrer dans le repos de Dieu. » Qu'est-ce que le repos ? Le repos, c'est quand il n'y a plus besoin de faire une œuvre. Lorsque Dieu a créé la terre et les cieux, le septième jour, il s'est reposé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas quelque chose de plus à faire. Lorsqu'il est allé à la croix, il a tout accompli concernant le salut, il n'y a pas quelque chose de plus à faire. Donc c'est ça, rentrer dans le repos de Dieu. Et donc comme Dieu est en Jésus-Christ, d'une certaine manière, se repose de son œuvre, tel aussi nous sommes dans ce monde. C'est-à-dire dans ce monde, nous sommes encore pécheurs, il y a encore la nature pécheresse en nous, et du coup ce combat que l'on voit en Romains 7 entre la chair et l'esprit, nous sommes dans un monde qui est de façon évidente perverti, pécheur, il y a un combat spirituel, c'est ce monde dans lequel le péché est entré. Néanmoins, nous ne sommes plus normalement à l'image de ce monde, nous ne sommes plus à l'image de notre péché, nous ne sommes plus à l'image de la condamnation que nous méritions, nous sommes à l'image de ce qu'il est. Tel il est, nous sommes aussi dans ce monde. Et donc, nous sommes parce qu'il est, c'est-à-dire qu'il a fallu que Dieu veuille que nous existions et qu'il veuille nous sauver, et nous sommes comme il est aujourd'hui. Parce que une des raisons qui fait que nous vivons dans la crainte aussi, c'est souvent un problème d'identité. C'est qu'est-ce que je dois être pour être accepté à mes yeux, aux yeux des autres, aux yeux de Dieu. Et du coup, on a tous tendance à penser qu'on va être accepté en fonction de ce que nous devrions être. Et donc, il y a un standard. Je vais accepter parce que je suis beau ou parce que je suis belle. Je vais être accepté parce que je suis intelligent. Je vais être accepté parce que j'ai de l'argent. Je vais être accepté parce que je suis un créateur dans un domaine ou dans un autre. Il y a plein de raisons qui peuvent nous pousser à chercher à être accepté au travers des moyens que nous donne ce monde. Et qui parfois sont des choses d'ailleurs qui sont pas forcément condamnable. La seule chose, c'est que ces choses ne permettront jamais de nous donner la paix. La paix que nous pouvons avoir, c'est l'assurance d'être accepté en Dieu sans chercher à trouver en nous des raisons d'être accepté. Et c'est pour ça, c'est tel il est, c'est-à-dire que ça commence avec lui, tel nous sommes dans ce monde. C'est pas voilà ce que je fais, donc voilà ce que je suis. Voilà ce que j'ai, donc voilà ce que je suis. Voilà ce que je dis, donc voilà ce que je suis. Etc. Non, ça commence pas avec moi, ça commence avec Jésus-Christ. Tel il est, tel je suis accepté à mes yeux et aux yeux de Dieu. Parce que est-ce que Jésus-Christ est accepté par le Père ? Bien évidemment oui, il a accompli une vie parfaite, le Père n'avait rien à reprocher à son Fils. Mais du coup, je dois trouver mon identité dans ce que Christ a fait pour moi. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean dit « tel il est, tel nous sommes dans ce monde ». Beaucoup de gens vivent dans la crainte de ne pas être accepté. Alors, je ne dis pas qu'on est toujours accepté par les autres. Je veux dire, c'est un fait, ça arrive. Mais que ça engendre de la souffrance, c'est évident, c'est pas facile. Mais ce dont je voulais parler cet après-midi, c'est de la crainte. C'est-à-dire que nous n'avons pas à avoir peur. C'est que si nous vivons dans la peur, nous ne vivons pas dans l'amour. Et si nous ne vivons pas dans l'amour, nous ne vivons pas en Dieu. Donc nous ne serons pas heureux. Et donc, il ne faut pas se voir en fonction de ce que nous devrions être ou en fonction de ce que nous pourrions être éventuellement. J'ai peut-être raté le coche un jour. Non, tel il est, tel je suis dans ce monde. J'ai été racheté par le sang de Christ et c'est le temps présent, maintenant. C'est même pas dans le monde à venir. Bien entendu, dans le monde à venir, je vais avoir un corps glorifié, je serai sans péché. Voilà. Et le même apôtre Jean va dire d'ailleurs, lorsque nous le verrons, nous serons comme lui. Il dit, nous le verrons tel qu'il est et nous verrons nous comment nous avons été vus. Ça, c'est plutôt Paul dans 1 Corinthiens. Mais là, il est en train de parler de notre situation maintenant. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Vous savez, on a tous fait des erreurs dans la vie, que ça soit en tant que chrétien ou même avant. Et des fois même, on subit encore les conséquences de ce passé. Mais néanmoins, mon identité n'est pas dans ce que j'ai pu faire dans le passé. C'est pas ça qui doit déterminer ce que je suis. Je suis en fonction de ce que Christ a fait pour moi. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et pareil concernant le futur, je peux avoir des projets, je peux avoir des sujets de prière, je peux avoir des désirs, je peux progresser dans tel ou tel domaine, rentrer dans un processus de sanctification. Bien entendu, on doit tendre vers ça. Néanmoins, ce que je suis aujourd'hui ne dépend pas, quelque part, vous savez, d'un futur, ou alors, pour le dire d'une autre manière, c'est bon, aujourd'hui je me débrouille, mais demain ça ira mieux. Non, non, je veux grandir en Christ, mais néanmoins, tel il est, tel je suis dans ce monde maintenant. C'est-à-dire que tout va bien. C'est un peu comme des parents, lorsqu'ils voient un enfant de 5 ans qui est obéissant, la période est favorable dans la relation parent-enfant, ça ne veut pas dire que l'enfant, il est mûr encore, et pourtant la relation est bonne. Vous voyez, il y a un amour qui est accompli. Pourquoi ? Parce que l'enfant n'a pas peur de ses parents, il a confiance, et pourtant, l'enfant, il a encore des travers, il doit grandir encore. Néanmoins, la relation est bonne. Et c'est la même chose pour nous. Bien entendu, on doit progresser. Et donc, on doit avoir une vision pour notre vie, pour le futur. Néanmoins, tel il est, tel nous sommes maintenant dans ce monde. Et vous savez, quand on commence à vivre cet instant présent de cette manière-là, il y a des opportunités, que ça soit dans la relation avec nous-mêmes et relation avec les autres et relation avec Dieu, qui peuvent s'ouvrir, si vous voulez. Vous savez, je le vois en plus aujourd'hui, il y a des brassages de population, donc on est en contact avec d'autres façons de voir les choses, et du coup, ça nous renvoie même nous à notre propre façon de penser, à notre culture. Mais des fois, on a tendance à vouloir être en fonction de ce que nos ancêtres ou notre famille ou notre entourage attendent de nous. Et si on répond pas à leurs attentes, on a l'impression d'avoir échoué. Ça peut être quelqu'un qui a eu, les parents ont eu tel ou tel métier, et on souhaite que les enfants prennent le relais. Et peut-être que l'enfant n'a pas envie de prendre le relais, peut-être qu'il n'a pas les capacités. Et donc du coup, il vit dans la crainte en disant « mais finalement, je suis pas aimable, je suis pas digne de mes parents ». Mes amis, le christianisme nous amène à aller au-delà de cela. Et d'ailleurs, quand on lit un petit peu les histoires des apôtres, qu'est-ce qui a pu faire que les apôtres sont sortis quelque part du monde dans lequel ils étaient ? Les 12 apôtres étaient de confession juive, certains étaient plus religieux que d'autres, et on pense à l'apôtre Paul notamment, qui était en plus un pharisien, il aurait pu avoir peur d'entrer dans l'appel de Dieu. Peur que son peuple le juge, peur que les pharisiens le jugent, peur d'être persécuté, peur d'être ridiculisé. Et pourtant, il a été au-delà. Pourquoi ? Parce qu'il a rencontré Jésus-Christ. Il a rencontré celui qui est amour. Et l'amour parfait bannit la crainte. Et quand il va écrire plus tard qu'il a été rejeté par son peuple, bien entendu que ça l'a amené à souffrir. Mais en tout cas, il n'y avait pas la crainte. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Et lorsque Jésus a demandé à ses disciples, alors ça va mettre un petit peu de temps pour qu'ils rentrent dans cet appel-là, mais il leur a dit « allez de par le monde et faites des disciples ». Vous ne pensez pas que quelqu'un comme l'apôtre Pierre, ou comme Jean, ou d'autres, André, qui étaient des pêcheurs près d'un lac, dans leur petit village, et d'un seul coup se sont retrouvés à voyager, l'apôtre Pierre s'est retrouvé à mourir à Rome, parler devant les grands de ce monde, vous ne pensez pas qu'ils auraient pu avoir la peur de rentrer dans cet appel, sachant qu'ils n'avaient jamais étudié comme les intellectuels de l'époque, c'était des gens simples, mais pourtant, l'amour parfait a banni la crainte. Parce qu'ils ont rencontré l'amour de Dieu, ils sont allés au-delà d'eux-mêmes. Ils sont allés au-delà du jugement qu'on pouvait leur faire. Et rappelez-vous, lorsque l'apôtre Pierre a renié le Seigneur 3 fois, pourquoi il l'a renié ? Parce que l'amour parfait n'était pas en lui. Il a eu peur. La crainte était là. Et ça l'a amené à vivre selon son tempérament naturel, selon sa nature pécheresse, il a voulu se protéger. Et il était censé aimer Dieu, il était censé marcher selon le plan de Dieu, il avait été appelé par Dieu, il avait même promis à Jésus-Christ en disant « mais nous, on mourra pour toi ». Et alors que la mort s'approchait peut-être de lui, il s'en est protégé en reniant Christ. Et qu'est-ce que Christ a fait ? Christ a été le chercher, il est revenu vers lui, il a continué de l'aimer et il a continué de susciter un appel en lui. Et ce qui fait que cet amour que Pierre a rencontré, une fois de plus je dirais, plus la venue du Saint-Esprit en acte 2, a fait que quelques jours après, Pierre prêchait dans le temple devant ceux dont il avait eu peur quelques jours avant, devant les religieux. Pourquoi ? Parce que l'amour parfait bannissait la crainte. Et du coup, parce qu'il était rempli de l'amour de Dieu, il se mettait à aimer son Seigneur et à le servir. Et donc c'est ça la clé pour sortir, si vous voulez, des fois de la prison dans laquelle nous sommes et qui fait qu'on vit dans une crainte permanente. Tel qu'il est, nous sommes aujourd'hui dans ce monde. Alors après on peut se poser la question, d'accord, tel il est, mais qui est-il ? Alors soyons pratiques, nous savons par exemple qu'il est omnipotent. Nous sommes d'accord que Dieu est omnipotent, que Jésus-Christ est Dieu, deuxième personne de la Trinité, il est omnipotent. Donc vous allez me répondre, bah attendez, ok, lui il est omnipotent, je veux bien, mais moi je ne le suis pas. Et ça reste vrai. Et pourtant, l'apôtre Jean dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et qu'est-ce qui fait que souvent nous vivons dans la peur ? Parce que nous ne sommes pas omnipotents. On ne peut pas nous soulever des montagnes, nous ne pouvons pas changer certaines situations, nous sommes limités. Oui, mais par la prière, dans la souveraineté de Dieu, parce qu'il faut que ça corresponde au plan de Dieu aussi, rappelez-vous, l'apôtre Jean a écrit « Si nous prions selon sa volonté, il va nous répondre ». Mais pourquoi nous prions à Dieu ? Parce que tel qu'il est, c'est-à-dire omnipotent, lui peut répondre à nos prières. C'est-à-dire que nous ne sommes pas omnipotents, mais par la puissance du Saint-Esprit, des choses impossibles à l'homme peuvent se manifester. Et c'est dans ce sens-là où l'Église peut dire « tel il est, nous sommes ». Pas parce que nous sommes devenus omnipotents, il n'y a que Dieu qui est et qui sera pour l'éternité omnipotent. Il restera Dieu et nous des créatures. Mais nous serons connectés avec celui qui est omnipotent et avec celui qui peut agir. Alors, on a des dizaines d'exemples dans l'Ancien Testament, mais prenons le cas de la mer Rouge. Pourquoi le peuple d'Israël, peuple plus faible que le peuple d'Égypte, et de loin, est plus faible que la nature, va se retrouver devant la mer Rouge? Et pourquoi ce peuple va être béni? Parce que celui qui est omnipotent a ouvert la mer pour eux. Et ça a engendré la délivrance. Ce qui fait que tel que Dieu est, eux-mêmes étaient au bénéfice de cette omnipotence. Et parfois, dans notre vie, on peut avoir, par exemple, dans notre, ramenons ça de façon plus personnelle, il y a peut-être des impossibilités devant nous, il y a peut-être des océans devant nous, des montagnes, des situations inextricables, qu'elles soient matérielles ou peut-être même émotionnelles, des choses qui se situent dans notre âme, et on a l'impression qu'on ne changera jamais. Ah bon ? Mais est-ce que tel il est, tel je suis ? Est-ce que Dieu ne peut pas agir dans ma vie ? Bien sûr qu'il peut agir dans ma vie. Et donc, son omnipotence peut agir en moi. Et parce que j'ai cette assurance que l'omnipotence peut agir dans ma vie, la crainte s'éloigne. Ça ne veut pas dire que la situation va être réglée du jour au lendemain, mais la crainte va s'éloigner. Est-ce que Dieu est omniscient ? Bien sûr qu'il est omniscient. Mais est-ce que je le suis ? Bien sûr que non, je ne le suis pas. Donc, comment se fait-il que Jean puisse dire « tel il est, tel nous sommes dans le monde » ? Tout simplement parce que je me repose sur celui qui sait. Ce qui fait que dans les situations que je traverse, des fois je ne comprends pas pourquoi Dieu permet telle ou telle situation, mais imaginez que je ne sois pas en relation avec celui qui est omniscient. Là, je serais vraiment désemparé. Là, je n'aurais aucune solution. Là, je serais bloqué. Mais dans mon humanité, je suis toujours bloqué, mais je sais que Dieu est avec moi. Pourquoi ? Parce que j'ai eu la paix avec Dieu par Jésus-Christ, et je sais que Dieu, dans son omniscience, connaît toute chose, sait ce qui va se passer demain, peut contrôler certaines situations, et je dirais qu'il sait encore plus de choses que moi sur telle ou telle situation, et du coup, la crainte s'éloigne parce que je m'appuie sur celui qui connaît toute chose. Ça m'empêche pas de prier, ça m'empêche pas d'être concerné par certaines situations, mais la crainte s'éloigne. Pourquoi ? Parce que Dieu m'aime et Dieu est omniscient et il peut agir. Et on peut rajouter la même chose avec l'omniprésence. Moi, je ne suis pas omniprésent. Je ne sais pas ce qui se passe derrière la porte, derrière ce mur, je ne sais pas ce qui se passe chez vous. Mais Dieu, lui, est également présent partout. Il est omniprésent. Et donc, je peux m'appuyer sur celui qui peut agir là où je ne peux pas agir, qui peut susciter certaines situations à des endroits où moi je n'ai pas accès. Et donc, tel il est, je suis. Et en tant qu'Église, par exemple, dans un domaine, il y a des pays qui sont complètement fermés à l'Évangile. On peut s'en désoler. Fermé, je ne parle pas en termes de, dans le sens où les gens n'en veulent pas, mais parce que c'est interdit. Il y a des lois, il y a des risques de prison, les chrétiens sont persécutés. Et nous-mêmes, on peut peut-être pas y aller. Ou peut-être qu'on a peur d'y aller. Toujours est-il qu'il y a cette crainte et de se dire, mais finalement, comment ces peuples vont rencontrer Christ, etc. Mais je sais que Dieu est omniprésent. Dieu est présent dans les pays persécutés. Et Dieu sait tout. Et c'est tout ce qui se passe dans les pays persécutés. Dieu est omniprésent et donc je peux prier. En tant qu'Église, nous pouvons prier. Et donc nous allons entrer dans les attributs de Dieu par la prière. Et c'est le corps de Christ qui, comme ça, va agir et on verra dans l'éternité les résultats des prières que nous aurons pu adresser à Dieu. Et donc, bien entendu, on ne sait pas tout, mais par exemple, on peut être guidé par le Saint-Esprit qui, lui, sait tout. Et là, je reviens à des situations plus pratiques dans notre vie. C'est-à-dire que soit je peux être paralysé en disant je sais pas, moi, j'ai un truc à rendre lundi à mon travail. Ah, j'ai peur. Ah là là, qu'est-ce qui va se passer, etc. Il y a la crainte qui s'installe. Ou alors j'ai un entretien pour du travail et j'ai peur de pas finir mes fins de mois parce que ça fait longtemps que je suis au chômage, je vais perdre mes droits. On est concerné, bien entendu, on doit l'être. Mais on peut, nous, en tant que chrétiens, se dire, Seigneur, t'es au courant de ça. Guide-moi par ton esprit, donne-moi ta sagesse, conduis-moi. Et parce que j'ai l'assurance que Dieu est avec moi et que j'accepte aussi sa souveraineté et donc toutes les circonstances qui peuvent m'arriver, il y a une crainte qui s'éloigne et c'est l'amour de Dieu qui va prendre la place. Et donc, du coup, je vais vivre le bénéfice du salut et non pas d'être éloigné comme ça du plan de Dieu pour ma vie. Et donc on va être guidé par le Saint-Esprit, par celui qui sait tout. On va être contrôlé par celui qui a toute la puissance et de celui qui vit en nous. Parce que lui, il agit dans ce monde, notamment au travers de l'Église. Et c'est intéressant parce que, je reviens au verset 17, il dit « C'est en cela que l'amour est parfait en vous. Si j'ai un entretien lundi et que j'ai peur de ce qui va arriver autre, d'une certaine manière, c'est que j'ai pas son confiance en Dieu pour moi, ma propre vie. C'est comme si je supportais le poids de cet événement à venir sans avoir l'assurance que Dieu est avec moi. Du coup, il n'y a pas l'amour qui prévaut. En revanche, si je suis sûr que Dieu est avec moi, avec mes faiblesses, avec mes forces, et ces faiblesses vont peut-être se voir de la part des autres, les autres vont peut-être voir ses faiblesses. Mais Dieu peut agir et il peut se passer quelque chose et je rentre dans la prière et l'amour devient de plus en plus parfait en moi. Vous savez, au verset 19, il y a quelque chose qui est extraordinaire. Il dit au verset 19, l'apôtre Jean, toujours dans 1 Jean 4, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que Dieu n'a pas mis de conditions pour nous aimer. Et ce qui est, ça paraît rien, mais c'est révolutionnaire. Parce que dans l'Ancien Testament, est-ce que l'amour de Dieu n'existait pas déjà? Bien sûr qu'il existait. On voit l'amour de Dieu pour Israël, pour ses serviteurs, pour son peuple. Néanmoins, quand vous lisez les 10 commandements, le premier commandement, quel est-il? C'est « tu aimeras et tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ta force et de toute ton âme. » C'est-à-dire que le premier commandement, c'est Dieu qui nous dit, qui nous demande de l'aimer. Mais, moi j'appelle ça le commandement zéro. Le commandement zéro, c'est Dieu qui nous a aimé le premier. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a fait le premier pas. C'est Dieu, et c'est ce que Paul va dire dans l'Épître aux Romains, « Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est-à-dire qu'il n'a pas attendu qu'il y ait un processus d'amélioration ou un mérite quelconque. C'est nous savons qu'il nous a aimé le premier. Et c'est ça qui nous donne l'assurance au jour du jugement et de l'assurance dès aujourd'hui. Encore une fois, il n'y a pas de crainte dans l'amour. Et du coup, ça va amener après un processus, je dirais... profitable, vertueux, voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est dans la relation avec les autres, parce que Dieu m'aime tel que je suis, il m'a aimé le premier, et tel qu'il est, je suis. Quand je commence à vivre cette dimension de la vie chrétienne, je peux commencer moi aussi à aimer les autres comme ils sont, et non pas en fonction de ce qu'ils devraient être, en fonction de ce qu'ils auraient pu être, en fonction des décisions qu'ils auraient pu prendre, c'est que tous les bénéfices que j'ai reçus pour moi-même de la part de Dieu, je commence à le transmettre aux autres. Ça s'appelle l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que je vais aimer les gens tels qu'ils sont. Ça ne veut pas dire que je serai en pleine communion avec eux. Ça ne veut pas dire que j'aurai entièrement confiance en eux. Après, il faut que ça soit du vécu. Mais je parle en termes d'amertume, de conflit, etc., de pardon. C'est qu'on va pouvoir entrer dans la liberté que produit l'amour parce qu'on ne va plus exiger des gens quelque chose pour les aimer. On va commencer à les aimer en premier. Et c'est comme ça qu'on va commencer à susciter l'amour de Dieu autour de nous. Et on a l'exemple de Jésus qui, évidemment, c'est un défi pour nous. Lorsqu'à la croix, il va dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est-à-dire que ces gens-là n'étaient pas aimables, loin de là, envers lui. Néanmoins, il continuait, lui, d'initier l'amour envers ces gens et d'intercéder auprès du Père pour ces gens. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir établir des relations qui sont saines, qui d'ailleurs font qu'on n'aura pas peur, parce qu'encore une fois, l'amour parfait bannit la peur. Vous savez, il n'y a pas de peur dans l'amour, donc il n'y a pas d'amour dans la peur. Quand il y a de la peur, il n'y a pas d'amour. C'est aussi simple que ça. Et donc, et d'ailleurs, quand il y a de la peur, il n'y a pas de la liberté. Or, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ? C'est que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. D'accord ? Et donc, la troisième personne de la Trinité a son mot à dire aussi là-dedans. C'est-à-dire que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Et la liberté notamment d'aimer notre prochain. Le problème, c'est que, à cause de la chute, dans notre être intérieur, il y a ce sentiment d'insécurité qui est lié à la chute d'Adam. Rappelez-vous, hein, on connaît tous ce passage, mais c'est bon de le rappeler. En Genèse 3, verset 10, il est écrit, après que l'homme et la femme aient mangé du fruit défendu, l'Éternel vient dans le jardin et appelle Adam. Et au verset 10, Adam répond, il dit à Dieu, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Pourquoi Adam a eu peur? Parce qu'il était nu. Et l'application spirituelle aujourd'hui, surtout dans le contexte où j'en parle, c'est qu'en réalité, au niveau du salut, nous sommes nus. On ne peut pas présenter quelque chose de correct à Dieu concernant le salut. Comment se sauver soi-même? Quelle est la mesure du salut? Comment plaire à Dieu? Nous sommes nus, désarmés. Mais Dieu, lui, nous couvre. C'est lui qui nous aime le premier. C'est lui qui a envoyé son fils. Là, dans Genèse, on voit que c'est lui qui a donné la peau d'un animal à Adam et Ève, c'est-à-dire le résultat d'un sacrifice. Il a fallu qu'un animal meure pour qu'Adam et Ève soient revêtus de la peau d'un animal. Et comme Adam et Ève étaient seuls, qui a tué l'animal? C'est Dieu. Et donc, cet animal qui a été tué préfigure la venue de Christ. Et on est, nous, revêtus de la justice de Christ. Tel qu'il est, tel nous sommes aujourd'hui dans ce monde. Et moi, je suis rassuré d'être tel que Dieu, que Jésus est, tel que Dieu est, mais en Jésus-Christ. Parce que c'est en lui que, comme le dit Paul aux Philippiens, ma vie est cachée en lui. Et donc, dans le jardin d'Éden, pourquoi la peur est venue? Parce que l'amour est parti. L'amour est parti. D'abord, l'amour est parti dans le sens relationnel, c'est-à-dire que Dieu ne pouvait pas aimer le pécheur. Donc l'amour est parti. Et le pécheur vivait dans la culpabilité, donc l'amour est parti. Des deux côtés, l'amour est parti. Alors, Dieu, évidemment, parce qu'il savait qu'il allait envoyer son fils, a continué d'aimer Adam et Ève. Mais en tout cas, au niveau de la relation intime, quelque chose a été brisé. Pourquoi ? Parce que le péché est entré dans le monde. Et donc, comme l'amour est parti, qu'est-ce qui s'est immédiatement installé? J'ai eu peur parce que je suis nu. Et Dieu dit d'ailleurs à Adam, mais qui t'a dit que tu étais nu? Et pourquoi ça posait pas problème avant? Parce qu'avant, c'est l'amour qui régnait. Et quand l'amour règne, qui que nous soyons, peu importe notre condition, même nu, on n'a pas peur parce qu'on est accepté tel que nous sommes. Par contre, leur nudité a été révélée à cause d'un amour qui s'est éloigné. Et comme l'amour s'est éloigné, la crainte est apparue. En fait, le péché je dirais, à effacer l'amour vertical qu'il y avait entre Dieu et les hommes, et après, conséquence, à effacer l'amour horizontal entre les hommes, entre eux. L'homme a peur, je suis nu, j'avais peur de toi, ô Éternel. Et puis ensuite, l'Éternel dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, Adam dit, c'est pas moi, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée, que j'ai mangé du fruit. Donc là, l'amour s'est éloigné aussi entre les deux êtres. C'est un ministère d'accusation qui a commencé. Et pourquoi souvent on accuse les autres? Pourquoi on blâme les autres? Des fois à raison, mais des fois à tort. Parce qu'on a peur. Et comme on a peur, on veut éloigner la peur en amenant une culpabilité sur les autres. Je me sens coupable, et donc, ou je me sens accusé par d'autres, et donc je veux rejeter ces accusations, rejeter cette culpabilité, en blâmant les autres, et en blâmant les autres, mon sentiment d'insécurité s'atténue, et j'ai un peu moins peur, parce qu'il y a quelqu'un qui est plus coupable que moi. Donc Adam, il pouvait pas nier le fait qu'il avait mangé du fruit. Oui, mais c'est elle qui m'en a proposé. Et en plus, c'est celle que tu m'as donnée. Tu me l'aurais pas donnée, elle me l'aurait pas proposée, et donc j'aurais pas mangé. Et donc, en fait, on s'aperçoit que les relations entre les êtres humains se détruisent à cause du sentiment d'insécurité où on va blâmer les autres. Alors c'est, je sais pas, on a un rendez-vous important, à un dîner, c'est voilà, c'est important d'arriver à l'heure, et on a peur des reproches qu'on va nous faire. Et du coup, si on était dépendant de la voiture d'un autre, non mais attends, c'est pas moi, c'est lui qui est arrivé en retard. Puis l'autre va dire oui, mais il y a eu des embouteillages. Et comme ça, on va rejeter la patate chaude. Pourquoi? Parce que on va vouloir se justifier en permanence. Alors évidemment, dans nos relations courantes où il n'y a pas de problème, on peut donner des raisons et puis il n'y a pas de problème avec ça. Mais je parle quand il y a une tension liée à la crainte. Que vont dire les gens si j'arrive en retard? Donc, faut que je trouve une excuse pour atténuer ma crainte. Alors que celui qui n'a pas la crainte va dire, bah, je suis en retard, bah, voilà, parce que c'est ma faute, parce que j'aurais dû peut-être partir en avance. Voilà. Et, voyez ce sentiment de crainte qui nous amène en permanence à fabriquer des feuilles de figuier, comme on voit dans le jardin d'Éden. Ils se sentaient nus, donc ils ont cousu des feuilles de figuier, et on aurait pu se dire, bah, du coup, c'est bon, tu t'es habillé et tu présentes-toi devant l'Éternel. Le problème, c'est que, l'être humain ne peut pas faire de la haute couture concernant le salut. Hein? Il peut essayer de fabriquer des vêtements, mais ça ne suffira jamais. Il n'y a que Dieu qui peut faire de la haute couture pour le salut, et la haute couture est tellement exigeante qu'il a fallu qu'il envoie son fils. Il n'y a que son fils qui pouvait nous donner le salut. Il n'y a que celui qui est amour qui pouvait nous sauver. Et donc, en Éden, on voit que le péché a effacé l'amour vertical entre Dieu et les hommes et ensuite horizontal entre les êtres humains. Et du coup, c'est la crainte qui s'est installée en permanence. Alors que le salut, lui, fait l'inverse. C'est-à-dire que Jésus est la lumière du monde. D'accord? Jésus a dit à ses disciples, et donc prophétiquement à l'Église, vous êtes la lumière du monde. En fait, la lumière éloigne les ténèbres. C'est comme ça que ça fonctionne. De la même manière, s'agissant du monde naturel, on va dire que c'est la mort qui prend le dessus sur la vie. Tous autant que nous sommes, nous allons tous mourir dans ce monde. Donc d'abord on vient à l'existence, on a la vie, et c'est la mort qui prend le dessus. Dans la vie avec Dieu, c'est le contraire, c'est la vie qui prend le dessus sur la mort. Alors que nous étions morts dans nos péchés, Dieu nous a rendus à la vie par Jésus-Christ. Et donc, c'est pour ça que nous croyons dans la résurrection. Et quand il va y avoir la mort, ensuite il y aura la résurrection. Donc avec Dieu, c'est le contraire qui se passe. La vie prend le dessus sur la mort. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vivre par la foi et en fonction des promesses de Dieu, parce que si on regarde l'existence, on se dit, bah non, c'est la mort qui gagne à la fin. Mais nous disons, non, c'est la vie qui gagne à la fin. Mais c'est la vie de Dieu, c'est pas la nôtre. Parce que ma vie ne peut pas vaincre la mort, mais la vie de Dieu peut vaincre la mort. Et c'est pour ça que je n'ai pas de crainte. Si je m'appuie sur moi-même, je peux avoir peur de la mort, parce que je sais très bien que je ne peux pas m'en sortir tout seul. Mais lorsque j'ai reçu la vie de Dieu, la vie prend dessus sur la mort. Et ben c'est la même chose concernant l'amour et la crainte. Quand l'amour vient dans ma vie, la peur diminue. L'amour prend le dessus sur la crainte. Et c'est pour ça que c'est vital de vivre dans l'amour de Dieu. C'est vital de recevoir son amour, parce que quand on vit dans l'amour de Dieu, on a moins peur, voire la peur disparaît, et du coup on est apte à prendre certaines décisions. On est apte à accepter certaines situations. C'est vraiment une liberté qui nous permet même d'aimer en premier, même si on n'est pas sûr d'être accepté ou d'être reconnu. On va aimer les autres inconditionnellement. Ça va nous aider à entrer dans l'amour que Dieu veut susciter entre les êtres. Et c'est vraiment une grande liberté qui nous est promise. Alors, pourtant, dans la Bible, il nous est parlé de la crainte de l'Éternel. Donc on doit aussi s'expliquer là-dessus. C'est que l'amour parfait bannit la crainte, mais pourtant la crainte de l'Éternel est quelque chose de bien. Un proverbe, par exemple, Proverbe chapitre 1, verset 7, Proverbe 1, 7, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. » Dans d'autres versions, c'est le commencement de la sagesse. « Et les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Donc on va dire la crainte de l'Éternel, c'est quelque chose de bien. Alors, pourquoi l'apôtre Jean dit « L'amour parfait bannit la crainte » et pourquoi y aurait-il ailleurs une crainte de l'Éternel qui serait salutaire ou selon la volonté de Dieu, sachant que la Bible ne peut pas se contredire. En réalité, la crainte de l'Éternel est liée justement à une relation d'amour. Lorsque l'on aime quelqu'un, ben je prenais tout à l'heure l'exemple d'un rendez-vous amoureux entre deux personnes qui commencent à se fréquenter. Je peux imaginer, alors que la relation commence à être de plus en plus, je dirais, intime, ouverte, confiante, qu'on ne va pas aller au restaurant en disant « pourvu que ce soir, elle ne me mette pas une tarte dans la figure » ou « elle, pourvu qu'il ne me donne pas un coup de poing ». On y va avec confiance. Mais en même temps, comme on veut aller jusqu'au bout de la relation, on a peur de heurter l'autre. Ça s'appelle même des fois de la séduction. C'est-à-dire que comme on aime et comme on veut être aimé, on va faire attention. L'homme va être courtois, il va dire les mots qu'il faut, etc. Malheureusement, ça a tendance à s'atténuer après, au bout de un certain nombre d'années. Tout comme dans l'église, on peut des fois accueillir des gens avec un grand sourire et après banaliser la relation parce que les gens sont comme faisant partie des meubles. Non, on doit toujours avoir cette crainte de ne pas heurter l'autre. Ça, c'est la bonne crainte. La crainte de faire du mal à l'autre. Parce que je suis aimé inconditionnellement par Dieu, j'ai peur de l'Éternel dans ce sens-là. J'ai peur de lui faire du mal. J'ai peur de ne pas lui faire plaisir. J'ai peur de lui désobéir. J'ai peur, rappelez-vous, l'apôtre Paul dit « n'attristez pas le Saint-Esprit ». Donc, on ne veut pas le rendre triste. Et donc, parce qu'on ne veut pas l'attrister, on a peur. Et c'est intéressant parce que, en Proverbe 1,7, la partie B du verset dit « les insensés méprise la sagesse et l'instruction. » C'est-à-dire que la sagesse est liée à l'instruction. Si je suis enseigné dans la parole de Dieu, je vais pouvoir connaître la volonté de Dieu. Et parce que je vais connaître la volonté de Dieu, je vais pouvoir heurter de moins en moins mon Seigneur. Je vais pouvoir lui obéir de plus en plus parce que je ne veux pas lui faire du mal. Je ne veux pas l'attrister. Je ne vais pas lui faire du mal en tant qu'être. Il est omnipotent, je ne peux pas déstabiliser Dieu. Mais Dieu a des émotions. La preuve, il est dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Et donc, je ne veux pas heurter cette relation amoureuse avec Dieu. Et donc, c'est de ça dont j'ai crainte. C'est pas la crainte d'un jugement, c'est de la crainte de l'attrister. Et c'est comme ça aussi que nous devons vivre la crainte entre nous. C'est pas « j'ai peur de mon prochain parce que qu'est-ce qu'il va dire de moi, comment il va me juger, comment il va m'accepter, comment, etc. etc. » Ça, c'est la mauvaise crainte. C'est pas la base des relations. En revanche, si ma crainte, c'est dire « tiens, qu'est-ce que je peux faire pour pas le heurter, pour lui faire plaisir, etc. » C'est l'amour en action. Et c'est cette crainte-là que nous devons vivre. Et c'est pour ça que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est pas la crainte de la condamnation, c'est la crainte d'une relation brisée. Ça n'a rien à voir avec la culpabilité, ça n'a rien à voir avec l'insécurité, ça n'a rien à voir avec nos faiblesses, ça n'a rien à voir avec nos manquements, ça a à voir avec l'attitude de cœur et de savoir si l'amour de Dieu selon Romains 5 est déversé dans mon cœur pour que je puisse le répandre autour de moi. Et donc, notre crainte, c'est de ne pas répondre négativement à celui qui n'a jamais été négatif envers moi. « Si Dieu est avec moi, qui sera contre nous ?» nous dit l'apôtre Paul. « Dieu a été toujours pour nous, même si nous étions pécheurs. Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Il était pour nous, il voulait nous sauver. » Et donc, parce que Dieu n'a jamais été contre moi, Il était contre mon péché, mais il n'était pas contre moi. Moi, aujourd'hui que j'ai reçu le salut, je ne veux pas blesser mon Sauveur. Je ne veux pas répondre de façon négative. Et c'est comme ça que l'amour parfait peut se vivre avec Dieu et entre nous.